Alors, bonjour, et je suis très heureux d'être ici ce matin. Pour être sûr d'être à temps, du reste, je suis arrivé à Lyon à la mi-février. J'attends ce colloque déjà depuis un bon moment, d'autant plus que les collègues français et d'autres nous révéleront, et moi j'en suis pour le moment inconscient précisément, donc les premiers résultats, les résultats préliminaires de cette recherche fort intéressante. Alors, écoutez, moi je vais être honnête, je suis pas un spécialiste de l'enseignement de l'histoire, je suis même sans doute un mauvais prof. Mais il y a longtemps, j'ai eu cette idée de ne pas faire comme on fait d'habitude lorsqu'on interroge les jeunes sur l'histoire, c'est-à-dire leur poser des questions précises sur des aspects circonstanciels du passé pour conclure qu'ils ne savent pas grand-chose à propos de ce qui a été et ensuite leur tomber dessus comme la misère tombe sur le pauvre monde, comme on dirait chez nous. Alors, j'ai pensé qu'il serait au contraire préférable de leur donner la chance d'exposer leur propre vision de leur société, le Québec en l'occurrence, pour voir ce qu'ils avaient retenu de ce qu'ils avaient reçu. Et ils reçoivent en classe, mais aussi à l'extérieur de la classe. Françoise l'a précisé tout à l'heure. Donc, en l'espace d'une dizaine d'années, cette recherche que j'ai, en partie complétée, s'est amorcée vers le début des années 2000. En l'espace d'une dizaine d'années, j'ai donc demandé à près de 5000 jeunes Québécois de raconter l'histoire du Québec comme ils la connaissaient. Et plus de 3400 d'entre eux ont par ailleurs accepté de répondre à une deuxième question que je leur posais, qui était ainsi libellée. Si tu avais à résumer l'histoire du Québec en une phrase ou une formule, qu'écrirais-tu personnellement? On me demanderait de dire ce que, sur le plan professionnel, j'ai fait de plus satisfaisant depuis que j'évolue dans le monde universitaire, et ça fait un bout, qu'il me faudrait bien identifier cette idée de recherche, très simple, comme étant celle qui m'a le plus contenté intellectuellement. D'autant plus, oserais-je dire, que l'analyse du corpus constitué, même si elle reste préliminaire, a changé ma perception des choses quant à l'enseignement de l'histoire. Donc, avant de rassembler mes idées en écrivant le livre dont la page couverture paraît à l'écran, j'étais, je crois, une groupie des didacticiens. Je buvais leurs paroles, peut-être parce que je ne les comprenais pas. Or, je me disais que ces gens devaient savoir, parce que leur façon de faire était inspirée par de grandes théories, par des recherches empiriques minutieuses, par une connaissance érudite de la littérature scientifique, et j'en passe. Et il est vrai que les didacticiens sont des savants, et je respecte la science. Cependant, quand je lis le programme d'histoire qui a été implanté au Québec en 2006, enfin, on voulait l'implanter en 2006, mais à cause des rugissements de certains critiques, c'est finalement 12 mois plus tard qu'on l'a effectivement implanté. Donc, quand je lis ce fameux programme avec ses attendus, ses schémas, sa novlangue, je m'ennuie. On a dit que j'étais l'une des éminences grises derrière le nouveau programme d'histoire au Québec. Faux. Je n'ai même jamais eu la patience de lire en entier le document présentant le programme, tellement il est compliqué, parfois nébuleux. Ce programme, vous l'imaginez bien, a été inspiré, voire produit, par des didacticiens, du moins en partie. Les historiens le leur reprochent d'ailleurs beaucoup, comme si les historiens savaient ce que c'est que d'enseigner à des élèves du secondaire. Alors, remarquez que je ne le sais pas davantage, j'ai simplement le privilège d'avoir réalisé cette recherche sur la conscience historique des jeunes. Or, que montre cette recherche? Elle montre d'abord que les jeunes ne sont pas une bande de crétins à l'esprit vide. Les jeunes sont au contraire dépositaires d'un stock de connaissances sur le passé, connaissances le plus souvent accrochées à un treillis de représentations fortes, treillis structurant leurs connaissances comme autant de références actives donnant du sens à leur vie. Par exemple, si on demande aux jeunes de raconter l'histoire du Québec comme ils la connaissent, une majorité d'entre eux est capable de nommer plusieurs des événements, des personnages aussi, qui, dans la mémoire collective québécoise, font office de tête de chapitre du grand roman national de la tragédie québécoise. Certes, les historiens professionnels diront de l'histoire du Québec racontée par les jeunes qu'elle est superficielle, pleine d'anachronismes, tranchée, fausse souvent. Et ils auront raison. Le problème des historiens vient du fait qu'ils ne comprennent pas, ou qu'ils ne veulent pas comprendre, la façon dont les gens ordinaires, et j'inclus là-dedans les jeunes de mon enquête, construisent leur représentation historique. Les historiens voient en toute personne un historien potentiel, alors que, sauf exception, les gens préfèrent être heureux plutôt que de succomber au charme de Clio. Or, le bonheur, vous le savez, tient en bonne partie aux équilibres que l'on se donne dans la vie, et le savoir historique participe de l'atteinte de ces équilibres. En clair, les gens ordinaires, si vous me permettez l'expression, cherchent moins l'histoire vraie que l'histoire qui fait sens pour eux, c'est-à-dire l'histoire qui leur permet de saisir, voire de comprendre, la complexité irréductible du passé. Passé qui n'est d'ailleurs jamais aussi sensé qu'on le prétend, mais l'absence, que j'écris AB trait d'union SENS, n'est pas un lieu où l'esprit humain aime se réfugier. Les jeunes, donc, savent des choses à propos du passé. Ce savoir, cependant, est lacunaire et le plus souvent simpliste. C'est d'ailleurs pour cette raison, sans doute, que le savoir des jeunes est robuste et qu'il ne cède pas facilement à l'assaut des nouvelles informations ou représentations qui leur sont transmises relativement au passé. D'autant moins, oserais-je dire, que les programmes d'histoire au Québec, en tout cas, ont pour objectif, et ce, dans le moins de temps possible, de bourrer les crânes de connaissances et les esprits de connaissances, de compétences, ce qui, au final, est peut-être contre-productif. Les programmes existants font également comme si les jeunes étaient des passionnés d'histoire, comme si leur mémoire était extensible à souhait et comme s'ils préféraient la complexité des interprétations à la clarté des explications. Or, je me demande sincèrement, et je vous le demande aussi, inévitablement, si cette pédagogie performative, à l'instar du régime de croissance qui marque l'avancement supposé de nos sociétés, celui de la performance à tout prix, ne nous mène pas droit vers le mur. Peut-être devrions-nous explorer l'idée d'une pédagogie durable, terme sans doute mal choisi, mais inspiré, vous le comprenez, de l'idée de développement durable, en principe plus compatible avec le rythme naturel du monde. Alors, bien sûr, en quoi consisterait cette pédagogie durable? Je la verrais, pour ma part, orbiter autour de 4 principes fondamentaux. Moins de matière, mais plus ciblée. Moins de méthode, mais plus pratique. Pour des objectifs moins ambitieux, mais plus atteignables. Adaptés à des élèves moins abstraits et plus concrets. J'entends déjà les critiques. Non, mais quel programme démissionnaire! On est en 2014, buddy! L'excellence doit être notre priorité. La société est exigeante et l'on doit en retour exiger beaucoup des jeunes. Ils sont d'ailleurs capables d'en prendre, y compris de faire face à la complexité des choses. OK. C'est une façon de voir qui ne me convainc plus après avoir réalisé la recherche. Je vais donc y aller de mon programme. Et vous le constaterez, je n'ai pas la prétention de réinventer les boutons à 4 trous. Partons du début. Il est 3 constats, qui semblent faire consensus chez les analystes. Premier constat. Les connaissances historiques des jeunes, sans être absentes, sont minimalistes chez la majorité d'entre eux. Bon, vous êtes sans doute d'accord avec ça. Deuxième constat. Trop de jeunes au sortir de l'école secondaire manquent de compétences pour produire un texte structuré et argumenté qui soit de qualité. Troisième constat, l'esprit critique des jeunes devant le savoir qui leur est transmis ou qu'ils acquièrent en dehors de la classe est faible plutôt que fort. Je ne dirais pas qu'on peut leur faire croire n'importe quoi ou leur faire passer n'importe quoi pour du cash, comme on dit, mais on n'en est pas loin. Alors, pourrions-nous structurer un programme d'histoire dont l'objectif prioritaire, modeste dans ses ambitions, mais crucial par ses répercussions, directes et concrètes, serait de remédier à ces trois lacunes? Le cas échéant, quelle forme prendrait ce programme? Premier point, pallier au manque de connaissances historiques des jeunes. La méthode habituelle que certains aimeraient raviver sous prétexte qu'elle est éprouvée est évidemment, et ce nonobstant ce qu'on dit, y compris ce que disent les adeptes de la pensée historique, est évidemment de remplir des crânes qu'on prétend vides, mais qui sont apparemment avides d'apprendre et qui, surtout, sont parfaitement réceptifs au savoir transmis. C'est un point de vue. Ce que j'ai découvert à la suite de la recherche, de ma recherche, c'est que l'ignorance des jeunes est affaire complexe. Hein? Qu'ils sont dépositaires d'un savoir historique, que ce savoir est puissant à défaut d'être pertinent et qu'il n'est pas facile de substituer à ce savoir acquis un savoir alternatif. Comment faire dans ce contexte pour leur mettre de l'aplomb historique dans la tête, comme aurait dit ma grand-mère? Ma suggestion serait que l'on parte de là où se trouvent les jeunes, c'est-à-dire du savoir qu'ils détiennent. À cet égard, la recherche que j'ai menée au Québec et celle qu'ont réalisée plusieurs collègues dans cette salle, que ce soit en France hexagonale, en Corse, à La Réunion, en Catalogne, en Suisse, en Allemagne, en Belgique, au Maroc, et je sais qu'un projet semblable au nôtre vient de démarrer en Suède. Donc, ces recherches sont majeures pour cartographier le territoire des connaissances et des représentations historiques des jeunes, bref, pour radiographier le fond et la forme de leur conscience historique. Et ce n'est pas rien. Donc, partir de là où se trouvent les jeunes. Or, ce lieu a beaucoup à voir avec le fond de la mémoire collective et le contenu du récit national qui circule dans l'espace public et qui est continuellement recyclé. Par qui? Par les politiques, par les idéologues, par les caricaturistes, par les séries, même télévisées, etc. En fait, le lieu de la connaissance et des représentations historiques des jeunes est très largement celui de ce que j'aime bien appeler les mythes-histoires nationaux. Or, confronter ces mythes-histoires en vue de les révéler dans leur nature construite, et ce, au risque de subir le courroux des nationalistes, est à mon avis une étape capitale pour mener les jeunes hors de l'espace du pensable où ils sont pris et poser les conditions d'un élargissement éventuel de leurs horizons intellectuels. Or, si personnellement je vois pareille démarche de confrontation des mythes-histoires nationaux comme étant une entreprise scientifique et non politique, je suis évidemment pas idiot. Je sais bien que les conséquences d'une telle démarche déconstructionniste ou déconstructiviste sont aussi politiques, ce qui nous mène évidemment sur un terrain glissant. Déconstruire donc par le conflit cognitif. Non pas briser toutefois pour ne rien reconstruire. Le but de l'enseignement, en effet, ne peut être d'abandonner le jeune à lui-même, non plus que de le laisser dans un vacuum de sens. Vulnérable en ce lieu indéfini et désordonné, le jeune devient insensible au prêt-à-penser assuré et réconfortant des idéologues. Or, si tant est que fonctionne la démarche de fissuration du savoir acquis par les jeunes, et c'est pas facile de fissurer un savoir acquis, c'est pas facile de déconstruire un mythe-histoire, l'étape suivante consiste donc à offrir aux jeunes, aux élèves, des visions alternatives d'histoire, et ce de manière qu'ils puissent penser autrement les moments, processus et phénomènes historiques qu'ils doivent saisir pour comprendre l'expérience historique de leur société. Or, par penser autrement, j'entends ici penser les choses sur un mode complexe, le plus complexe possible, avec la nuance, l'empathie et la polycontextualisation commandées par la compréhension de l'expérience passée de la vie humaine. On renoue ici, vous l'imaginez bien, avec certaines visées et certains concepts centraux de la pensée et de la méthode historique prisés par les didacticiens, mais aussi par des historiens. Bon, tant mieux, ça me fait plaisir de leur faire plaisir. Déconstruire et reconstruire, voilà deux étapes cardinales à mon programme de formation à l'histoire. Mais reconstruire autour de quoi? Je ne ferai part ici que d'une idée principale. ce n'est pas en proposant aux jeunes un programme alternatif complet qui cherche à rendre compte de toute l'expérience historique d'une société, mais plutôt en proposant à ce jeune, à ses élèves, un programme d'abord centré sur les tableaux mythes historiques de sa société, tableaux évidemment retravaillés par l'histoire, que de mon point de vue, on se donne le meilleur moyen de sortir l'élève des savoirs acquis pour le mener vers des savoirs alternatifs. Savoirs alternatifs, j'insiste là-dessus, qui sont susceptibles de lui servir dans des situations concrètes d'interaction et d'interlocution. Ce côté utilitaire du savoir transmis, que certains jugeront navrant, me semble important pour favoriser la rétention des connaissances chez les jeunes. C'est en effet parce qu'ils estimeront en avoir besoin dans des contextes réels de vie, au présent, que les jeunes développeront un intérêt pour l'histoire qui, à notre époque et dans nos sociétés, vous le savez mieux que moi, reste aux yeux de plusieurs élèves un savoir auxiliaire, voire superflu. L'hypermodernité qui caractérise notre régime d'existence, on le sait, est difficilement compatible avec le dilettantisme intellectuel. Pour beaucoup de jeunes, apprendre aux fins de retenir rime avec connaître aux fins de réussir. Faire de la connaissance historique un capital à détenir et non pas un ornement à étaler pourrait convaincre bien des jeunes de l'utilité de ce savoir qui entre en compétition avec bien d'autres savoirs dans la conquête de leurs esprits. Or, déconstruire un ensemble de représentations historiques pour en proposer une nouvelle, plus complexe, en focalisant l'enseignement sur les événements, dès lors démythistorisés, qui forment la structure et font le contenu du roman national, celui qui habite plus ou moins l'esprit des élèves, tel est ce que je suggère. Se pose alors un problème. Quelle structure d'ensemble donner au cours par laquelle la formation se ferait? Or, j'irai vite ici. Disons que le cours prendrait la forme d'une série de leçons. N'ayons pas peur du mot. En tout cas, il est très abhorré au Québec. Donc, leçons qui suivraient un plan chronologique et seraient ensemble liées par une problématique assez relâchée au chapitre de sa prétention à embrigader le passé dans une matrice forte et univoque. En clair, pas de téléologie ici. Pas de grand concept structurant non plus, que ce soit celui de nation, de classe, d'oppression, de colonisation et j'en passe, concept qui souvent constipe le passé dans des histoires scriptées. Plutôt un passé remis dans les incertitudes constitutives de son évolution, un passé débinarisé, replacé dans ses horizons multiples et dissonants de compréhension. La problématique historique que j'ai en tête, vous l'imaginez, aurait une forme molle plutôt que dure, ouverte plutôt que fermée, hésitante plutôt qu'imposante. Cela dit, elle aurait une forme et il s'agirait d'une problématique tout de même. Pensez aux structures mobiles d'Alexander Calder pour vous la représenter. On dira, mais pareille problématique qui ne colonise pas le passé d'un sens massif et net, ne risquerait-elle pas d'embrouiller l'élève plutôt que de l'éclairer? On sait que les jeunes, pour comprendre quelque chose aux enchevêtrements plus ou moins sensés de la condition humaine, préfèrent s'équiper, à l'instar des adultes du reste, de représentations fortes en clarté plutôt que généreuses en subtilité. Alors la chose fait réfléchir. Voilà pourquoi il vaut la peine d'établir une distinction entre une problématique qui laisse l'élève dans la complication et, disons, une problématique qui amène l'élève à faire sens de ou avec la complication. Visant le raffinement analytique par accumulation de variables, la première problématique, donc celle qui laisse l'élève dans la complication, finit effectivement par le désorienter. Visant la compréhension des choses par élémentation du complexe, la deuxième problématique, celle qui amène l'élève à faire sens de ou avec la complication, dégage plutôt des perspectives synthétiques. Or, le jeune s'ouvrira à la complexité des choses dans la mesure où les éléments constitutifs d'une complication seront intégrés dans une structure générale de compréhension, est-elle la forme d'une armature composite et incertaine. On pourrait dire les choses autrement. Pour faire passer la complexité du passé aux jeunes, il faut articuler cette complexité dans une architecture qui génère du sens, qui offre quelque chose à laquelle se raccrocher, même si, ultimement, ce quelque chose ne peut être associé qu'à la formule suivante de cette situation ne ressort rien de clair, on ne peut la présenter que dans sa réalité touffue, voire confuse. Autrement dit, comprenez ici qu'il n'y a rien à comprendre. Il est une autre question importante à traiter. Quelle forme ou plan de déroulement concret chaque leçon prendrait-elle pour favoriser l'apprentissage maximal chez les jeunes? On s'entend ici que la forme de la leçon devrait tabler sur l'acquisition par le jeune de connaissances et de compétences tout à la fois. Or, selon mon scénario, tout commencerait par une mise en contexte susceptible de produire chez le jeune une réaction à un savoir acquis. Les questions « Que savez-vous à propos d'eux » ou « Saviez-vous que » pourraient ici servir d'hameçon. Le conflit cognitif ainsi créé ouvrirait la porte à l'approfondissement d'un sujet qui pourrait se faire en deux temps initiaux. Premier temps, présentation de données de base ou factualité primaire, permettant le creusement du sujet. Cette présentation pourrait se faire sur le mode d'une narration primaire. Deuxièmement, par le biais d'une démarche interrogative, sorte de questionnement à propos du sujet, et par le biais aussi d'une démarche argumentative, soit la reconstruction du sujet sur un mode différent, transmettre aux jeunes un savoir plus complexe, débouchant sur un point de vue synthétique, sorte de bilan, si vous voulez, ou d'idée force, offrant aux jeunes un crochet pour se souvenir de quelque chose de significatif en termes de perspective historique. De façon à promouvoir l'apprentissage d'une idée force par le jeune, la leçon d'histoire serait ponctuée de faits saillants, qu'il s'agisse de curiosités, de détails particuliers, de personnages emblématiques, d'actions saisissantes, de propos éloquents, d'anecdotes percutantes, de gestes émouvants, etc. Faits saillants symptomatiques de processus abstraits, de complexité de sens ou de perspectives multiples. On sait à quel point une image frappante utilisée à bon escient et avec précaution peut être un support fantastique d'apprentissage et de compréhension de savoirs sibyllins. Dans le contexte d'un tel scénario pédagogique, rien n'interdirait évidemment à l'enseignant, pour incarner son exposé ou illustrer son dire, d'user de sources historiques. Pensons ici à des cartes ou à des documents d'époque, à des objets, des films, des artefacts divers, etc. Les mêmes sources qui constituent de précieux matériaux à exploiter pour former les novices à la méthode scientifique, c'est-à-dire, fondamentalement, savoir questionner, savoir analyser, savoir bâtir une argumentation et savoir l'appuyer dans le cadre de la production d'un texte de synthèse construit pour convaincre, les mêmes sources, dis-je, pourraient également faire l'objet d'un emploi avantageux en classe, et ce sur un mode plus ou moins avancé. Ai-je besoin d'ajouter que pour quérir l'intérêt des jeunes d'aujourd'hui, il ne peut avoir de pédagogie qui ne soit soutenu, voire fondé sur le numérique, le « digital », comme on dit en anglais. J'insiste sur le fait que le scénario proposé, qui tient à la remise en cause de visions assimilées d'histoire, de même qu'à la construction méthodique d'un nouveau savoir historique, aurait implicitement pour conséquence de développer chez les jeunes l'esprit critique, ce qui constituerait un acquis important pour eux, un acquis dont ils auraient possiblement le réflexe pendant longtemps. Un dernier mot avant de terminer. J'ai mentionné que beaucoup trop de jeunes sortaient du secondaire en déficit de compétences au chapitre de leur capacité à produire un texte structuré et argumenté. Vous admettrez que la chose est préoccupante. Dans le scénario que je propose, la rédaction de textes d'histoire, une vieille méthode apparemment, serait un exercice qui reviendrait régulièrement. Par le biais d'un tel exercice, qui pourrait prendre la forme d'une analyse textuelle ou celle d'une réponse argumentée à une question soumise par l'enseignement, non seulement, mais peut-être suis-je trop naïf, non seulement les jeunes assimileraient-ils des connaissances à partir des recherches qu'ils auraient l'obligation de mener, mais ils apprendraient à mobiliser ces connaissances en suivant les règles de la méthode scientifique, dont de mon point de vue, la méthode historique n'est qu'une variante, aux fins de bâtir un texte d'histoire consistant et séduisant par son fond, par sa structure et par sa forme. Or, pour mettre autant d'emphase sur la rédaction de textes d'histoire, compétence, de mon point de vue, absolument majeure à acquérir, il faudrait toutefois accepter, malheureusement peut-être, je ne le sais, accepter donc que moins de matières historiques ne soient couvertes dans le cours, ce qui, de mon point de vue, serait une bonne chose. Alors voilà quelques leçons pour l'enseignement que je tire de la recherche que j'ai menée. Merci.